Vous écoutez France Culture.
Bonjour, je suis Héloïse. Je voulais montrer Lazare et les Simpsons. En fait, il se passe qu'en premier, Bart il est puni. Son papa il a fini de travailler. Sa maman elle a fini de faire des courses. Ensuite, il arrive avec la voiture rose. Bart il saute sur la voiture rose avec son roller. Et Lisa elle arrive en vélo, alors elle va le poser. Et puis après, Marge elle va l'écraser. Elle va écrabouiller Marge.
Homer. Et est-ce que c'est la vie comme nous alors?
Non, pas du tout.
Pourquoi?
Parce qu'ils ont la peau jaune, ils sont rigolos.
Et ça, bon. ça se passe où les Simpsons?
Aux États-Unis.
Ouais. Ah, qu'est-ce qu'ils ont dans leur ville?
Ils ont un bar. Ils ont une boutique d'animaux. Ils ont leur maison. Et c'est tout.
T'aimerais bien vivre chez eux?
Non.
Pourquoi?
Ah, parce que c'est pas très joli chez eux. Je préfère d'autres maisons parce que regardez les beaux rideaux, regardez les belles étagères, regardez les beaux dessins, regardez les beaux. Oh, je vais jamais pouvoir parler à cette télé. Est-ce qu'on va me voir à la télé?
Mais non, c'est la radio.
Ouf.
Benoît Lagane,
Eric Vera,
Série Télé,
L'Amérique en 24 épisodes. Ce soir, épisode 9.
La famille dans tous ses états. Dans l'épisode précédent, nous avons centré nos propos sur l'évolution de la place des minorités et notamment de l'image de la femme dans les séries américaines tout au long des années 70. Si nous avons parlé entre autres de l'image et de la place de la mère de famille véhiculée dans les séries américaines des années 60 et 70, nous allons ce soir élargir en nous intéressant plus généralement à la famille, thème central de la plupart des séries télé américaines. Alors vous savez, Eric, que j'ai plusieurs thèses en ce qui concerne les séries télé. Dans l'épisode de ce soir, je vais m'en donner à cœur joie, car d'après moi, le motif familial dont il est question ce soir est sans doute celui qui colle le plus parfaitement à la forme sérielle. Vous savez pourquoi ?
Non, je donne ma langue au chat.
Je vais vous l'expliquer. Si la série permet de raconter une histoire au long cours, une histoire qui dure parfois pendant plus de 10 ans, hein, je pense à Friends, elle permet surtout de faire évoluer, et donc de faire grandir ou vieillir ses personnages sur plusieurs années. Une forme qui se rapproche bien évidemment de la vie de tout un chacun. Avec la série familiale, les auteurs là peuvent aller plus loin, car le genre cumule deux arguments, une forme et un fond, l'évolution dans le temps en ce qui concerne la forme, une saison de Dallas ou de Once and Again, équivaut à un an de vie chez vous comme chez eux. De plus, le fond, la famille, est bien le dénominateur le plus commun à tout téléspectateur. Alors que l'on aime ou que l'on déteste sa famille, on a forcément des liens familiaux, ce qui nous permet d'appréhender plus que tout autre genre les situations que l'on nous propose de suivre. De la Sainte Famille au Ingalls de la Petite Maison dans la Prairie, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas tout à fait, mais les séries familiales sont quand même dans une longue tradition d'histoire ou de chronique universelle, tragique ou comique, c'est selon, que tout un chacun peut comprendre.
You get up so early.
I have to stop that.
I really shouldn't walk around here like this, should I?
La nature sérielle, la forme sérielle, c'est la forme la plus naturelle de la narration. Pourquoi ? Parce que si vous voulez raconter une histoire...
Martin Winkler,
romancier et spécialiste des séries.
Vous pouvez vous asseoir au coin du feu avec quelqu'un, lui raconter une histoire. Et puis l'autre, il s'endort, ou il est fatigueux, ou c'est l'heure d'aller se coucher. Mais il dit, mais je veux savoir la suite. Quelle suite? Quoi, il n'y a pas de suite? Ça s'arrête là? Non, non, il y a une suite. Mais je te la raconte demain, etc. Bon, donc, c'est la forme la plus naturelle. C'est une forme qui, évidemment, est une forme commerciale, bien sûr, qui a des valeurs commerciales, puisque si vous avez une série, bah, les gens ils vont acheter les fascicules tous les semaines. Mais c'est aussi la forme qui correspond le mieux à notre propre manière de raconter des histoires. Quand deux personnes s'appellent régulièrement au téléphone, qu'est-ce qu'elles font? Elles se racontent ce qui s'est passé depuis la fois dernière, qu'elles se sont parlées. Bon, nous vivons des vies qui sont des vies de continuité et non pas de discontinuité. Nous avons besoin de continuité dans nos vies, c'est-à-dire que nous leur apportons une continuité justement en essayant d'expliquer ce que nous n'avons pas vu. Et pour pouvoir le raconter aux autres, nous le racontons sous forme sérielle. Parce qu'on ne peut pas le raconter de manière continue, donc on le raconte de manière discontinue, mais à suivre.
Si l'on remonte aux origines de la télévision, on s'aperçoit que les fictions se déroulant dans le cadre familial sont essentiellement des sitcoms, on l'a vu par exemple avec I Love Lucy dans des précédentes émissions, ou alors des soaps. Mais l'industrie télévisée américaine, toujours à l'affût hein, pour créer de nouvelles recettes d'audience, réussit à ce moment-là de l'histoire de la télé le croisement parfait entre le motif familial et puis le genre populaire par excellence dans cette décennie 50, je veux parler du western. Alors la série qui symbolise parfaitement cette période, c'est Bonanza, hein, l'un des très grands succès de la télévision américaine, près de 450 épisodes sur 8 saisons, une période durant laquelle on va voir se développer derrière de nombreuses séries aux arguments similaires. Alors je vous cite les plus connues, hein, passées en France, diffusées en France, Le Virginien, La Grande Vallée, Chaparral, des séries où il est souvent question de la même chose, des gens qui ont travaillé dur s'installent enfin sur leur terre, une certaine histoire de l'Amérique finalement.
Vous parliez Eric de Bonanza à l'instant, c'est après avoir incarné pendant 15 ans l'un des personnages de cette série que Michael Landon se lance dans la production de La Petite Maison dans la Prairie, grande saga familiale des années 70. Alors avec cette série, Landon réussit un coup de maître en adaptant à la télévision une œuvre littéraire signifiante pour le public américain, celle des mémoires de l'auteur Laura Ingalls Wilder, qui raconte dans une série de 8 livres l'histoire romancée de sa famille de pionniers. En gros, en l'adaptant à la télé, Landon réussit à replacer le motif familial dans la pure tradition mythologique américaine, celle de la famille de pionniers à la recherche de sa terre promise. Cyril Rollet, docteur à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, a suivi avec passion dans son enfance La Petite Maison dans la Prairie. Avec le temps, il a pu prendre quand même un petit peu de recul et a réfléchi sur l'esthétisme particulier de cette série. Il nous en parle.
L'intérêt de La Petite Maison dans la Prairie, c'est qu'avec donc The Waltons, qui est une série relativement équivalente, elle a repris les thèmes de la chronique familiale et domestique, en les amplifiant, puisque là, elle est libérée de la tonalité comique. Donc vous avez finalement le substrat très édifiant qu'on trouvait dans le sitcom, qu'on finit par retrouver dans cette série produite par NBC, sur une chronique familiale que les Américains connaissent bien, puisque c'est un succès de librairie de Laura Ingalls Wilder des années 30, où elle a raconté sa vie dans l'Ouest américain de la fin du 19e siècle.
Et donc, c'est vraiment un moment où le motif familial réintègre le drama, ou est-ce qu'il il était déjà dans le drama avant ?
Il n'y était pas de cette manière-là, en tout cas. À ce moment-là, ce type de série, c'est typiquement des séries qui, sur le plan des valeurs, contrebalancent l'Amérique beaucoup plus sombre que montrent les sitcoms de Norman Lear. Donc, c'est probablement, mais là encore, c'est juste des hypothèses, mais il y a probablement une volonté, en rechoisissant ce motif et en le concentrant, d'offrir une sorte de pendant à l'Amérique un peu agressive, en tout cas à une communauté américaine que la bataille pour les droits civiques avait un peu mise à mal, en tout cas avait provoqué des débats relativement intenses à la fin des années 60.
R A T rat.
Perfect. You say that was a fine day's work. Anybody in particular you like, Laura?
Someone in particular I don't like. That snippy Nellie Olson.
Laura.
You know what she called us? Country girls.
We are country girls. There's nothing bad about that.
There is the way she said it. Look at the country girls. Made me so mad I wanted to smack her good.
Anna, just a minute. I don't hear you talking like that. You go to school to learn, not to fight.
Uncle John is sick of bed. What shall we send?
Sur la question du travail plastique, quand on la regarde, on est d'abord étonné, surtout dans le téléfilm pilote et dans les saisons successives, du travail plastique qui se fait, mais d'une manière comme on peut le faire à la télévision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté, comme on peut le voir dans certains films de cinéma, de picturalisation volontaire. Ici, il y a un travail, notamment sur des réminiscences, on va dire, des réminiscences picturales de l'art américain du 19e siècle qui est repris, mais aussi d'une certaine forme de pensée d'un philosophe qu'on n'étudie plus beaucoup aujourd'hui, qui est Emerson, qui est repris dans La petite maison de la prairie à travers un personnage qui réapparaît une fois et le philosophe est cité deux fois. Ce qui est relativement étrange dans une série de parler d'un auteur comme Emerson. D'abord, il y a beaucoup de gens qui considèrent que Emerson, c'est quand même un philosophe très, très académique parce qu'il fait partie de ces philosophes qui sont aussi poètes et littérateurs. Donc, d'une certaine manière, il y a quelque chose de très français chez Emerson. Il aime beaucoup Montaigne. Et il est réutilisé dans La petite maison de la prairie parce qu'il y a un certain nombre de valeurs qu'on retrouve chez Emerson et que la série essaye de développer, mais qu'elle développe en les schématisant aussi à sa façon. Mais c'est tout ça pour montrer qu'il y a derrière tout ça quand même une sorte de passage, de trait d'union entre la culture savante, la culture populaire, et qu'on n'est pas dans un monde télévisuel qui est complètement étanche et complètement clos. Donc il y a à la fois des réminiscences plastiques dans des séquences, notamment dans l'épisode pilote où le chariot traverse la prairie, etc. Et on peut s'amuser presque à recenser des tableaux des années 1850, 1880 dans l'art américain, mais aussi dans le discours qui est prononcé, tout en restant dans le cadre du divertissement, puisque ça apparaît d'une manière implicite et presque involontaire dans la série, comme des formes de rayures, de diaclases, comme ça, qui nous rappellent que la série elle-même a à voir avec la culture d'une manière générale. Culture au sens où on l'entend en anthropologie.
Justement, en quoi, dans la façon de filmer cette série, on peut voir, ne serait-ce que sans le son, juste avec les images et les plans, la place de Dieu, de la nature dans cette série.
Ça, c'est encore lié à la pensée d'Emerson. Tout ça est probablement, peut-être là on le dit de manière rapide, mais évidemment moins volontaire que ce qu'on pouvait croire. Simplement, il fallait trouver une manière de filmer relativement caractéristique pour un motif qui était relativement nouveau à la télévision américaine. Donc il y a évidemment, mais ça on retrouve ça aussi dans un certain type de peinture et de peinture religieuse, c'est-à-dire ils avaient des grands ciels, vous avez un bleu immaculé en aplat avec des rares nuages, et puis c'est facilité aussi par le tournage en Californie, qui a un climat qui favorise ce type de ciel, et en même temps vous avez quand même certains plans qui sont des plans qui s'appesantissent comme ça quelques secondes presque de trop, et jamais de trop en même temps, parce que l'idée c'est toujours faire de la télévision, du spectacle et du divertissement, et c'est certainement pas de produire un discours. Si discours, il y a un discours qui est produit, c'est un discours qui est second, mais c'est jamais, c'est ça la force de la télévision, vraiment la télévision libérale, c'est que d'une certaine manière, c'est la prime au divertissement. Donc dans cette série-là, tous les plans qui apparaissent très travaillés se font toujours au profit de la narration elle-même.
J'avais encore jamais vu ça avant.
Quoi donc ?
La bourrée dans le noir ?
Papa voit très bien dans le noir.
Il n'y a que les chouettes qui voient dans le noir.
Bonsoir, mes chéris. Tiens, regardez ça. On arrive une minute en retard et sa part est dévorée.
Tu dis toujours que ceux qui arrivent en retard à table ne méritent pas de manger.
J'aurais jamais dû dire ça.
T'as bien travaillé ?
Oh, ça oui, alors. J'ai réussi à labourer tout ce qui est à l'ouest de la crique. Encore deux jours et j'aurai tout fini.
Oh, c'est bien, alors.
Tu sais, chérie, ça fait une sacrée différence.
Oui, quoi donc ?
Quand tu dois labourer un champ pour récolter du blé que tu ne pourras pas vendre, ou labourer pour récolter du maïs qui emportera de quoi vivre, ça change, tu sais, tu peux me croire. Ce maïs, c'est un événement pour toute la région.
Eric, nous l'avons un petit peu abordé dans le premier épisode de notre série, mais l'ancêtre incontesté de la série télévisée est bien la série radiophonique. Et l'exemple le plus marquant est celui du feuilleton quotidien, le soap opéra, une sorte de long roman photo où le téléspectateur suit au rythme du temps qui passe, chaque jour, les rebondissements, les histoires de cœur et les rivalités de nombreuses familles radiophoniques au départ et puis ensuite télévisuelles. Alors à la télé, il y a les Horton et les Brady de Salem dans le soap des jours et des vies, en production depuis 1965, ou encore les Brooks, les Foster, les Chancellor, les Newman et les Abbotts de la série, Eric, Les Feux de l'amour.
Les Feux de l'amour, bah oui, totalement. Oui.
Diffusées depuis 1973. Alors, si ces séries familiales sont produites pour une diffusion en journée, laissant le motif familial de soirée au sitcom ou au western, vous le disiez, une petite révolution va quand même avoir lieu en 1964 avec la diffusion en soirée trois fois par semaine d'une série qui mélange pour la première fois le genre du soap à celui de la série dramatique. Cette série, c'est Peyton Place, diffusée en deux temps entre 1964 et 1969, puis entre 72 et 74. Une série du soir dans la lignée des autres soaps, d'où sortiront quand même quelques comédies bien connus aujourd'hui, comme par exemple Mia Farrow et Jenna Rollins. Si Peyton Place initie le soap du soir, c'est surtout avec Dallas que les choses vont véritablement changer.
Une nouvelle en amène une autre. Je lui ai donné également mes droits de vote.
Mais tu es fou. En faisant ça, tu lui permets de détruire les Petrolet Wings.
Il ne touchera jamais aux Petrolet Wings.
Ah ouais, qu'est-ce que tu en sais?
Il m'a donné sa parole.
Il t'a donné sa parole, mon pauvre ami, mais tu es aussi bête que tu es gros.
J.R., pas devant les enfants.
Ils sont assez grands pour savoir que leur grand-mère a épousé un traître.
J.R., je vais te faire payer ça tout de suite.
Arrêtez, je vous dis, ça suffit, arrêtez. Vous êtes en train de vous battre à cause du
Bobby
pétrole.
Mais
il a tout fait
ça.
Pour qu'on détruise les Petrolet Wings.
Ça m'évitera de le faire comme ça.
Tu parles de l'œuvre sacrée de papa.
Écoute, je viens d'enterrer ma femme à cause de ce maudit pétrole. Alors l'œuvre de papa, j'en ai rien à foutre.
Voyons, Bobby, tu es en train de
je m'égarer. Je vais à Odessa cette nuit. Quand je reviendrai, je vendrai les Petrolet Wings.
Bobby! Bobby!
On va quand même revenir en 78, donc trois ans avant Hill Street Blues. Hill Street Blues qui est présenté comme la série fondatrice de la série moderne. Et 78, donc, c'est la naissance d'une série qui révolutionne la télé, c'est Dallas. Hein. Donc c'est une œuvre mondialement connue qui compte les vicissitudes d'une opulente famille texane qui a fait fortune dans le pétrole de manière plus ou moins, comment dire, avouée. Et il y est question de mésalliances, de trahison, de ruines. Hein. Donc le public jubile et se rue sur la série qui devient assez vite numéro un des audiences aux États-Unis. Alors techniquement, CBS en fait invente avec Dallas ce qu'on appelle le nighttime soap, hein, c'est-à-dire la technique du soap, mais passé le soir. Hein. Finalement, si on accepte Peyton Place dont vous parliez tout à l'heure, c'est la première fois qu'on fait ça. Et donc là, on voit en fait des scénaristes qui vont reculer devant aucun stratagème pour faire venir le public. Donc tout le monde, bien sûr, connaît peut-être le plus célèbre des cliffhangers, hein, donc fin de saison haletante de l'histoire de la télé. C'est le fameux qui a tué JR, hein, donc qui va rassembler la saison suivante presque 80 millions de téléspectateurs devant leur poste. Alors un sujet de conversation dont s'empareront même les candidats à la présidentielle de l'époque. Hein. Donc pour revenir à Dallas, en imposant une forme feuilletonnante, Dallas a ouvert la voie à toutes les grandes séries des années suivantes et en cela, elle est vraiment importante.
Ta mère et ton père vont venir te voir dans quelques minutes, chérie.
Oui, je crois que j'ai fait une peur bleue à tout le monde.
Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Il faut que tu te reposes et tu guériras plus vite.
Comment va John?
Oh, très bien. Son père lui manque, tu sais.
J'aurais bien aimé que tu me l'amènes ici.
Mais tu vas bientôt rentrer à la maison, j'en suis sûre.
J'en suis beaucoup moins sûre. Mes jambes sont... Je ne sens plus rien. Je crois que je suis paralysé.
Alors Eric, vous savez ce qui m'intéresse dans Dallas, c'est de retrouver tout ce qui fait le charme et la richesse des histoires familiales. En fait, dans Dallas. Il y a de nombreux clins d'œil au soap opéra, notamment dans la réalisation.
Oui, une réalisation assez statique et puis une vraie priorité au dialogue. On veut savoir vraiment ce qui se passe pour ces personnages.
Mais c'est une série qui utilise aussi les ressorts de la tragédie. Les affaires entre les deux frères ennemis sont le meilleur exemple. Et puis, il y a aussi une référence que l'on n'attend peut-être pas, une référence au cinéma, à un film de Frank Capra. Il y a, je l'avoue, ce soir, il y a du Frank Capra dans Dallas. Prenons par exemple le film La vie est belle, un film majeur qui prend lui aussi le cadre du motif familial. Eh bien, la description de l'univers économique impitoyable où on n'hésite pas à écraser les petites gens pour réussir fait curieusement penser à la description du capitalisme que peut en faire Capra. Il y a un petit peu dans JR du Potter, l'homme le plus riche de Bedford Falls dans La vie est belle, et un je ne sais quoi de George Bailey, interprété par James Stewart dans La vie est belle, chez Bobby. Dans le dernier épisode de Dallas, JR reçoit la visite d'un ange. Ce dernier lui montre ce qu'aurait pu être la vie sans ces horribles actes. Cette scène que certains auront trouvée ridicule est pourtant dans la droite ligne de l'ensemble de Dallas et est un renvoi clair et précis au chef-d'œuvre du keynésien Frank Capra. Dallas est donc, contrairement à ce que l'on pourrait penser, une série plutôt libérale, au sens anglo-saxon du terme. Alors, difficile quand même de dire si les Winks sont républicains ou démocrates. Quoi qu'il en soit, contrairement aux frères Kennedy, à Dallas, John Ross, JR, et Bobby ne sont pas quand même du même bord.
Alors ça, c'est votre théorie, Benoît, hein. Mais Jean-Baptiste Torret, universitaire, a lui aussi réfléchi à la question.
Il n'y a pas d'exemple, à moins d'être complètement abruti, dans les années 80, de films ou de séries télé qui diraient le capitalisme sauvage, les valeurs Reagan, etc., c'est quelque chose de formidable. Aucune série ne va le dire. Alors c'est vrai, c'est que Dallas, c'est une espèce de famille qui passe son temps à se défaire, des pétroliers véreux, bon, c'est vrai. Cela dit, dans les années 80, plus personne ne peut faire croire, d'une façon ou d'une autre, que la famille pleine et unitaire fonctionne encore. On est dans le stade de la reconstruction. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on montrera pas en Spielberg, dans La Guerre des Mondes, ce qui est aussi un film intéressant, qui est un film un peu bizarre, qui incorpore la catastrophe à l'intérieur d'une famille décomposée. Et comment, finalement, cette espèce de faux 11 septembre permet, en bout de course, à un père d'aller rejoindre sa fille et sa femme et de reconstituer la cellule familiale. Dallas, c'est exactement ça. C'est que, finalement, quelle est la valeur que défend Dallas? C'est la famille, pour que des gens se battent autant pendant des centaines d'épisodes pour la maintenir à bout de souffle. Et quand l'une s'en va sous Hélène, pourrait même sortir avec Cliff Barnes, ça devient une scène de catastrophe absolue. Et surtout, il y a surtout quelque chose qui est, à mon avis, hyper important, c'est quel est le grand personnage? La figure charismatique, sympathique, c'est pas Bobby qui est complètement fadasse, qui est une scène de grande nouille avec perruque, c'est évidemment Larry Hagman. Le personnage charismatique, celui qui est à la fois pourri, sourire carassier, etc., celui qu'on a envie de devenir, on lui en veut à mort, mais pourquoi? Parce qu'on voudrait être comme lui. Et donc c'est malgré tout une série qui, en dépit de toutes les critiques qu'elle peut faire, valorise l'individualiste, celui qui est prêt absolument à tous les coups pour pouvoir réussir. C'est par là, pour le coup, c'est la poursuite du bonheur, mais à n'importe quel prix. C'est une sorte de déformation de ce qu'est, on pourrait dire, l'idéologie américaine. Et finalement, c'est une série qui fait émerger une grande figure totémique. C'est évidemment, c'est lui qui détruit tout, mais qui tient tout en même temps. C'est évidemment JR, personnage joué donc par Larry Hagman.
Parmi les séries familiales, il y a plusieurs types de séries. Il y a d'abord celles qui font rêver le téléspectateur en mettant en scène l'histoire de famille richissime. C'est une version moderne du conte de fées et de la tragédie. Et le meilleur exemple, outre Dallas, c'est sans doute Dynastie d'Aaron Spelling.
Ouais, on peut citer aussi Falcon Crest, par exemple, mais toute une génération de nighttime soap. Alors Falcon Crest, ça se passe dans le riche vignoble de la Napa californienne, mais je pense aussi à Beverly Hills. Donc dans tous ces cas, le téléspectateur, il est fasciné par un monde qui lui semble inaccessible. C'est la série qui devient un peu une fenêtre de rêve. Alors une série qui va changer ça, c'est Melrose Place, parce que là on est dans un univers, on est dans une copro, donc de sorte de bobo avant l'heure, dans un quartier d'ailleurs bobo, Melrose Place est très bobo à Los Angeles, et là donc on arrive plus dans un sentiment, je dirais, proche de l'identification.
Les séries qui relate la vie de personnages auxquels on s'identifie. Il y en a aussi beaucoup. Moi, je pense aux talentueux Edward Zwick et Marshall Herkovitch. Dans 30 Something, par exemple, on suit le quotidien de jeunes adultes de la classe moyenne, jeunes entrepreneurs et jeunes parents à la fois.
Série des années 80. Oui. Hein. Et dans les années 90, ils recommencent le même coup. Hein, avec, moi, je pense à Angela, 15 ans, par exemple. Petite merveille créée par la poétesse Winnie Holzman. Et Angela, 15 ans, c'est tout sauf une série jeunesse. En France, on nous l'a passé comme ça. Mais c'est surtout une série qui parle aux ados des adultes et inversement. Et là, donc, on est dans des séries, hein, avec, vous parliez de Zwick et de Herkovitz, on est dans des séries très, très fines où le sous-texte, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dit dans les dialogues, est très, très présent, très important. Et c'est tout le talent des scénaristes dans ces cas-là. C'est de rendre les aventures d'une famille finalement assez lambda intéressantes pour des dizaines de millions de téléspectateurs.
Dans le même esprit, il y a aussi La vie à 5, où l'on découvre la vie des orphelins Salinger dans leur belle maison de San Francisco. Série qui raconte comment 5 enfants doivent se prendre en main du jour au lendemain après la mort de leurs parents.
Ça peut paraître assez simpliste comme ça, quand on la raconte, mais c'est un récit, c'est un parcours initiatique. Et donc, bien sûr, rien ne nous est épargné. Mais c'est vrai que quand on la regarde, encore une fois, semaine après semaine, il ne s'agit pas de regarder qu'un épisode, on voit comment tout ça est construit et il y a un discours cohérent sur la société. Hein. Donc la troisième famille peut-être...
Oui, les séries qui soulagent, vous m'avez dit ça tout à l'heure. Qu'est-ce que vous entendez par là? Des séries qui soulagent.
C'est celle auxquelles on ne s'identifie pas finalement. Elle nous rappelle que chez nous finalement, c'est plutôt pas mal. Alors, je pense aux Bundy, hein, les héros de Marié deux enfants. Vous n'avez pas du tout envie de vivre chez les Bundy. Je pense aux Simpsons par exemple, hein, la célèbre série animée de Matt Groening. Il y a aussi Earl, donc le loser magnifique. Je pense aussi à Malcolm, hein, une comédie dans laquelle tous les membres de la famille sont complètement fous. Donc là, on est vraiment dans ce type de série, on est dans la déconstruction du mythe de la famille, mais c'est aussi rafraîchissant.
Aujourd'hui, le motif familial est présent dans la plupart des séries, dans des séries comme Gilmore Girls, par exemple, un petit bijou de cette saison, où Lorelai Gilmore doit apprendre à renouer avec ses richissimes parents pour pouvoir financer les études de sa fille Rory. Il y a là la description de deux familles, la famille de sang et la famille de cœur, la dynastie Gilmore d'un côté et la petite communauté de Stars Hollow de l'autre, la petite ville où vivent les deux jeunes femmes. Petite communauté composée de curieux personnages. C'est une très belle série où l'on raconte au fil de nombreux épisodes pleins d'humour et de tendresse en quoi la famille de cœur est sans doute tout aussi importante que celle du sang, Lorelai et sa fille Rory cumulant en fait les deux.
Alors des familles de cœur, on en connaît tous hein, dans les séries télévisées. Même dans les séries finalement qui ne sont pas directement des séries familiales, la famille est omniprésente. Alors je prends deux exemples, Friends par exemple, Grey's Anatomy, donc deux séries à l'intérieur desquelles, d'une manière ou d'une autre, tous les personnages finalement ont des rôles, hein, même quand la famille s'efface, ils ont des rôles de membres de famille, et quand la véritable famille disparaît, les amis, les collègues finalement s'y substituent.
Alright, listen up. A toast to the birthday girl. My beautiful girl. With you home, the circle is complete. We're all here together.
Enfin, terminons par cela, Eric. La série familiale classique a encore de beaux jours devant elle. Pour preuve, une autre série, au titre on ne peut plus clair, Brothers and Sisters, où on nous propose là un véritable retour aux sources. Il y a dans cette série du Dallas, en nous racontant le quotidien de la famille Walker et la gestion de la petite entreprise californienne après la mort du patriarche. Une famille dont les membres ont, contrairement aux Ewing, pour le coup clairement des opinions politique, des démocrates et des républicains, une série familiale donc à la Dallas, mais qui a su piocher dans le meilleur des séries familiales précédentes, celle des networks certes, mais aussi celle du câble. Je pense notamment par exemple à Six Feet Under.
It's my big sister Kitty who taught me how to surf and how to kiss, believe it or not.
That's so not true. Justin, stop telling that story. It's not.
My dear.
Well. To Kitty, who I will probably always violently disagree with, but who I've never stopped loving. Not for one moment of her 38 years.
Happy birthday, baby.
C'était Série Télé, l'Amérique en 24 épisodes, une émission de Benoît Lagane et Eric Vera.
I think you should take that job if you want it.
Prise de son, Aveline Carmois. Mixage, Pierre Monteil.
We fight.
Réalisation, Lionel Quentin.
Fight. It's not the end of the world.
Retrouvez notamment un dossier consacré au soap opera dans les pages de Générique, le magazine de la culture série. Et puis rendez-vous lundi à 22h30 pour la suite de nos aventures. Bonne nuit.
I didn't know that. That's wonderful, Paige.
Il est 23h sur France Culture. Retrouvez dans un instant Pierre Chevalier pour Sur les Docks. Mais tout de suite, Axel Brucker vous présente ses bandes-annonces.